Anser, écrivain, pour un 12e livre, Petite table soit mise aux éditions Verdier, 52 pages exactement pour une féerie érotique coupée en deux parties. Acte 1, le récit d'une enfance toute d'allégresse et de jouissance incestueuse entre le père, la mère, les trois filles, leurs voisins, le docteur, enfin tous les gens qui passent. Et puis acte 2, errance de la narratrice qui est sortie de l'enfance. La première phrase, c'est « La première fois que je vis mon père vêtu en fille, j'avais 7 ans ». C'est une première phrase en guise de « Il était une fois ». Légèrement décalé. Comment cette phrase s'est imposée et puis à quel moment de l'écriture du texte et qu'est-ce qu'elle a permis en fait pour vous ?
Elle a permis la suite du récit.
Donc elle est arrivée en premier ?
Elle est arrivée comme ça, comme un fragment, comme arrivent souvent les phrases, sans que je sache du tout d'où elle sortait, d'où elle venait. Mais elle m'a semblé, dans sa composition, avec ses images, avec contenir quelque chose. En tout cas, elle m'a donné envie de poursuivre le récit. J'avais envie de savoir qui était cet homme habillé en femme. Voilà, et comme je fais toujours, je raconte une histoire pour savoir ce que disent les premières lignes et le mystère que renferment les premières ligne. Au fond, tout le livre consiste à explorer cette phrase.
Et c'est cette phrase qui a imposé la forme du conte, ou en tout cas la mise sous index du conte avec le titre « Petite table soit mise » qui est emprunté bien sûr à Grimm.
Je pense, parce que je n'ai pas du tout pensé au conte en commençant ce récit. Mais l'allusion au conte de Grimm qui porte ce titre est arrivée en cours de route. Et elle est arrivée, elle m'a causé beaucoup de plaisir, cette allusion au conte de Grimm. J'ai trouvé qu'elle avait bien sa place, que c'était comme un objet quand on cherche un morceau de puzzle et qu'on le trouve et qui remplit exactement l'espace où il doit être. Voilà, donc j'étais tellement reconnaissante à Grimm d'arriver là, au milieu de mon histoire, que j'ai décidé d'appeler ce livre du même titre que son conte à lui.
Alors, puisqu'on parlait de cette première phrase, on vous a demandé de lire cette première page. Anser.
La première fois que je vis mon père vêtu en fille, j'avais 7 ans. Je rentrais à la maison quand je vis venir à moi sur le trottoir une femme marchant sur de hautes sandales rouges, un manteau léger, peut-être en soie, en tout cas brillant, flottant derrière elle. Mais le plus extraordinaire était sa chevelure ébouriffée, oxygénée, les énormes pendants d'oreilles qui s'agitaient, les paupières bleues vives et pailletées. Elle était effrayante, on aurait dit Laura Van Bing dans Crucifixion ou Crusoe et Kiki dans sa danse frénétique. Je ne le reconnus pas tout de suite. D'habitude, il portait un veston. Un jour, j'avais surpris Marjorie Higgins en train de se coller de tout son long contre lui dans le vestibule et il lui avait donné une gifle, ce que j'avais trouvé très bien. Une autre fois, j'avais entendu Marjorie Higgins confier à ma mère qu'elle avait eu autrefois ce geste déplacé, qu'elle ne pouvait plus le lui cacher parce que maman était une si bonne et vieille amie. Maman avait éclaté de rire, elle s'était embrassée et leurs seins se frottaient pendant qu'elle s'étreignait.
Est-ce que cette dimension de conte a pu être pour vous une mise à distance nécessaire pour écrire l'inceste ?
Non, pas du tout, parce que c'est pas dans ce sens-là que ça s'est fait. D'abord, je n'ai pas du tout eu le sentiment d'écrire une histoire d'inceste. J'ai eu le sentiment de décrire un peu ce à quoi faisait allusion Annette Messager tout à l'heure, qui parlait de carnaval. J'ai décrit une situation grotesque, érotique, folle, drôle, effrayante, énorme. Énorme, comme le disait Flaubert, avec un H et un AU. Voilà, j'ai décrit une scène grotesque, énorme et drôle, très drôle, une farce. Je pense plutôt aux satiricons, des histoires comme ça. Donc, ce terme d'inceste, qui d'ailleurs n'apparaît jamais dans le livre, mais évidemment...
Toutes les situations y font référence.
Puisque ce sont des enfants qui couchent avec, avec leurs parents et avec les amis des parents. Enfin, c'est plutôt une orgie. Moi, j'appelle ça plutôt une orgie familiale. Familiale qui, en plus, invite, parce que les orgies sont très généreuses, donc qui invite aussi les voisins à participer et tout ce qui passe. Et les dames qui viennent, les psychologues qui viennent étudier les enfants sont aussi invités, naturellement. On ne va pas laisser à la porte
des
assistantes sociales. Elles ont le droit de participer à ces orgies.
Mathieu Conquet est complètement effrayé. Annette Messager, un commentaire. Et je sais que vous avez un autre passage à lire.
Mais... La première phrase, justement, se passe dans la rue. Mais quasiment toute cette première partie se passe à la maison. Donc ça m'a intéressé, cette espèce de fable dans la maison. Et justement, vous dites, notre maison était évidemment pareille à un corps, pareille à une âme, avec ici ses désordres. Là, ses lacs de calme, ici encore sa froideur, et là, sa profondeur veloutée. C'est vrai qu'une maison, comme ça, on la voit assez labyrinthique, pourrait y avoir là. Pour la cuisine, juste la bouche et le nez, pour les odeurs, la salle à manger où on se tient bien, la chambre pour d'autres choses, la salle de bain encore pour plus de profondeur. Enfin, de voir la maison comme un corps, des corps épanouis apparemment, qui s'épanouissent bien en tous les cas dans cette maison, ça m'a intéressé beaucoup.
Et moi, ça m'évoque tout d'un coup, parce que je fonctionne beaucoup par association, ce que vous disiez tout à l'heure du lieu qu'on vous avait... Vous disiez, on m'a offert un lieu à Strasbourg en me disant, remplissez-le, tant de mètres carrés, remplissez-le. Et cette maison, ça me fait penser un petit peu à ça, cette maison où en effet se passe toute cette scène érotique. C'est un théâtre, hein, c'est un lieu...
Mais c'est très compartimenté. Hein.
Voilà, c'est compartimenté, c'est vrai.
La table.
Mais, voilà, mais il y a une
la table de la salle à manger.
Et la propreté revient beaucoup.
C'est une femme d'intérieur, la mère.
La mère est une femme d'intérieur, c'est clair et net.
Oui.
Elle ne sort pas de chez elle.
Elle a tant à faire. Manu Farine.
Est-ce que cette dimension orgiaque, justement, dont vous parlez, Anne Serre, a pu imposer à votre langue, à votre écriture, qu'on connaît peut-être plus blanche que ça?
Vous trouvez que mon écriture est blanche?
Non, je n'ai pas dit blanche.
Oui, plus blanche.
Presque truffaldienne dans les romans que j'ai pu lire de vous.
Ah oui, ouais. Oui, oui. Alors peut-être ce juste qui était les précédents.
Le narrateur.
Le narrateur ou les débutants.
Exactement.
Voilà, qui sont les romans précédents. En revanche, il me semble me rappeler, parce qu'on oublie ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit, ça se dilue. Mais il me semble que mes premiers livres, et mon premier livre, Les Gouvernantes, par exemple, qui racontait l'histoire de trois jeunes filles dans une maison fermée, avec un parc fermé, et qui s'adonnait à toutes sortes d'activités, dont certaines érotiques. Il me semble que finalement, il y a un écho peut-être un peu avec ce premier livre. Donc, non, dans la suite de mes livres, il y a déjà eu un peu des dimensions de cet ordre.
Donc, c'est presque un retour aux origines. Dans un article signé Éric Chevillard dans Le Monde, à propos de votre livre, il est question de la langue de la littérature érotique coincée, c'est ce qu'il raconte, entre l'option clinique, par exemple Catherine Millet pour La vie sexuelle de Catherine M, ou l'option métaphorique. Quelles sont les questions de langage qui se sont posées à vous? Qu'est-ce que vous vouliez éviter, par exemple, Anne-Serre?
Rien, parce que d'abord, je n'ai eu aucunement l'impression d'écrire un roman érotique. Mais pas du tout. C'est mon éditrice qui m'a dit, quand je lui ai remis le manuscrit, « Mais voilà, Anne, vous avez écrit un roman érotique. » Très bien, j'étais contente
de ce diagnostic.
Mais moi, pas du tout. Moi, j'ai écrit un roman sur la naissance d'un écrivain. Et j'ai décrit les mystères pareils aux mystères antiques, aux mystères d'Éleusis. J'ai décrit les mystères, forcément orgiaques, les mystères sont toujours orgiaques, sinon il n'y aurait pas de mystère, qui président à la construction, à l'avènement d'un écrivain. Donc, moi j'ai eu l'impression d'écrire un livre extrêmement... grave. Je n'ai pas vraiment pris en compte cette dimension érotique. Et en tout cas, je n'ai pas eu l'impression du tout d'écrire un roman érotique.
Alors justement, on va rebondir sur cette question de la littérature parce que c'est elle, précisément, qui fait le lien entre les deux parties. Je cite un court passage de la dernière phrase, les dernières phrases de la première partie, vous dites de votre mère, elle, de la mère de la narratrice, car elle parlait bien, souvent comme un oracle, et j'ai pensé parfois qu'en mettant bout à bout chacune de ses paroles, je formerais un livre. On est à la fin de la première partie, je tourne, on est au début de la deuxième partie. La narratrice dit « J'avais le sens du langage, les mots résonnaient pour moi, ils avaient une présence, une profondeur et une profonde épaisseur, ils étaient presque vivants, j'aimais presque n'importe quel livre, tant mon appétit de langage était grand. Je me rappelle en avoir lu de mauvais lors de cette première fugue en Normandie et avoir trouvé des aliments. Ce n'est que beaucoup plus tard que mon goût s'est affiné. » Donc on voit bien que la littérature est le moyen de basculer de la première à la deuxième partie. Et la littérature, c'est les derniers mots de conclusion qui se conclut. Donc le livre se conclut sur une ivresse face à la cohérence du monde, comme une sorte de rapport transcendantal à la littérature. Je me demandais si cette ivresse face à la cohérence du monde, c'est quelque chose que vous aviez déjà traversé, Anne Serre.
Ah oui, ah oui, moi je suis comme ça, moi je suis faite comme ça. Ce qui me rend ivre, c'est depuis toujours, je suis née comme ça. Je suis presque née comme ça. C'est la littérature, oui, oui, oui. Et en effet, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave, ça fait une boucle.
On parlait d'ivresse face à la cohérence du monde.
D'ivresse face à la cohérence du monde. Oui, je parlerai de joie aussi.
Mais c'est presque joie, cohérence du monde, il y a presque une dimension religieuse.
Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai été très reconnaissante justement à un critique, alors vous serez le deuxième auquel je serai reconnaissante, de signaler ce... Justement, je me disais, ah voilà quelqu'un qui voit, qui parle pas de dimension érotique, mais qui parle de dimension religieuse. Oui, je crois qu'il y a une dimension, en tout cas un sens du sacré.
Vertical même. Hein.
Oui, on peut dire ça, vertical. Il y a une cathédrale qui occupe une place incroyable dans cette histoire. On me dit érotique. Moi, je vois la cathédrale. Je ne pense pas érotique.
Oui,
je pense cette cathédrale avec ses flèches qui montent dans le ciel et cette narratrice a le rêve, enfant, bon, prise dans un désordre un peu bizarre. Elle a le rêve de construire quelque chose qui ressemble à ces cathédrales. Donc oui, je suis d'accord avec vertical.
Manu Farine.
On a pu lire dans un portrait très récent que vous meniez une vie, somme toute, assez ascétique. Hein. En tout cas, rien qui puisse venir vous divertir de la littérature. À quel endroit est-ce que vous la placez, précisément, la littérature, Anser?
Elle occupe tout, la littérature. D'abord, je ne mène pas une vie si ascétique que ça.
Pas d'enfant, pas
non,
de conjoint.
Je n'ai pas d'enfant.
Vous n'en voulez pas.
C'est pas forcément être ascétique que de ne pas avoir d'enfant.
Non, non, ça j'avoue.
Bon, et j'ai toujours vécu seule. Il est vrai, parce que j'avais besoin d'être seule pour réfléchir. Il y a des gens qui peuvent faire deux choses à la fois, réfléchir et être avec quelqu'un. Moi, je ne peux pas. Je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Donc, quand je réfléchis et quand je rêve, il faut que je sois seule. Et comme c'est au fond ce que je fais, enfin surtout rêver plus que réfléchir, c'est ce que je fais au fond la plupart du temps. Donc, il faut beaucoup de solitude et de silence. Mais alors, où je place la littérature? Mais elle est là. Elle occupe tout l'espace. Elle occupe tout mon appartement, mais elle occupe aussi tout Paris. Et puis, elle occupe ce studio. Et puis je sais pas où elle est pas. La littérature.
Alors, au vu du sujet quand même, on pense à une autre écrivaine qui est Christine Angot, sans bien sûr sous-entendre que l'inceste serait la propriété de Christine Angot. On ne peut pas en faire cas comme si elle n'existait pas, comme si vos deux textes, Petite Tobe Soumise et Une semaine de vacances, n'étaient pas sortis en même temps. Et d'ailleurs, toutes deux, vous étiez en lice pour le prix Sade. Vous voulez savoir quel regard vous portez sur sa littérature, sur l'inceste, sur Une semaine de vacances? Et je vous pose cette question parce que je crois que vous avez été une des premières journalistes sous le nom d'Anne Walter à interviewer Christine Angot pour le magazine Marie-Claire. Et d'ailleurs, vous êtes, je crois, un des modèle pour son livre qui s'appelait Interview à l'époque. Quel regard vous portez sur sa littérature?
Écoutez, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu et je n'ai pas lu en particulier le livre qui est sorti
Une semaine de vacances.
Une semaine de vacances, donc je ne peux pas en parler. Moi, j'ai un problème avec l'autofiction en général. Hein, Christine Angot s'en réclame, mais d'autres auteurs aussi. Je trouve que ça peut constituer des livres qui sont émouvants, mais j'ai toujours l'impression d'être avec des livres qui sont à une seule dimension. Et moi, j'aime plutôt la littérature qui est à deux, trois, quatre dimensions, avec des chambres d'écho, avec des... Voilà, c'est plutôt vers là que va mon goût. Je trouve que l'autofiction en général offre un seul plan. Et moi, ça me laisse sur ma faim, si vous voulez.
Dernière question, pourquoi cet article n'est pas paru à l'époque, dans Marie-Claire? Cette interview, donc, que vous aviez menée avec Christine Angot?
Écoutez, l'article n'est pas paru parce que Christine Angot avait raconté son histoire avec son père sans nous signaler, sans qu'on se soit interrogé là-dessus, sans nous avoir signalé que son père n'avait jamais été jugé. Donc, quand l'article a été... je ne sais même pas si l'article a été écrit, mais quand j'ai rendu compte de l'interview à la rédactrice en chef en disant, voilà, l'interview, cette personne m'a raconté ça, mais son père n'a pas été condamné. Et donc, la rédactrice en chef, à ce moment-là, m'a dit, mais on ne peut pas publier, parce que c'est comme une... une accusation. Enfin, on peut pas, déontologiquement, le journal ne peut pas publier un article où cette personne décrit son père comme un criminel, dans la mesure où il n'avait pas été jugé. Et l'erreur, sans doute, c'était d'avoir fait cette interview sans prendre la précaution de savoir de ce qu'il en était.